Le courrier d'Espagne de Paul Lacroix, 1695. On attendait impatiemment à Versailles un courrier de l'armée d'Espagne. Le duc de Vendôme, qui assiégeait par terre Barcelone, que le comte d'Estrées, vice-amiral, bloquait par mer, avait écrit au roi une lettre, datée du 16 juillet 1695, dans laquelle il lui annonçait en ces termes la prochaine reddition de la place. Chemrose tient tout beauté pour vous emporter la nouvelle, avec le récit des beaux faits d'armes qu'il a vus et partagés. Mais un mois environ s'était écoulé depuis que Chemrose avait mis ses bottes et les dépêches n'arrivaient pas. Il y avait une personne qui, plus que tout le monde, souffrait du retard de Chemrose et désirait le voir arriver tout beauté, suivant la promesse contenue dans la missive du duc de Vendôme. C'était une demoiselle de la cour, nommée Louise de Beausselet, que madame de Maintenon avait prise en grande affection. Louise de Beausselet ne s'était donné aucune peine pour mériter les bonnes grâces de la favorite, qui voyait alors les ministres et les plus grands seigneurs soumis à ses volontés. Madame de Maintenon avait été séduite par la gaieté spirituelle, la franchise cordiale et la gentillesse piquante de cette jeune personne qu'elle fit élever avec soin et qu'elle attache ensuite comme fille d'honneur à la maison de la duchesse du Maine. Mademoiselle de Beausselet était orpheline et n'avait pas d'autre fortune que sa beauté, sa grâce et cette candeur charmante qui prêtait un trait indéfinissable à ses boutades les moins conformes aux habitudes du cérémonial de la cour. Elle ne connaissait ni crainte ni respect qui l'arrêtât dans ses aspirations, et elle savait faire rire sa marraine, ainsi nommait-elle madame de Maintenon, avec des actions et des propos qui eussent paru intolérables de la part de tout autre. Bien plus, madame de Maintenon, si sévère pour tout le monde, se montrait d'une si grande indulgence pour Louise qu'elle allait jusqu'à lui permettre d'afficher une tendresse folle pour l'homme qu'il aimait et qui devait l'épouser. Ce fiancé était le brigadier Chemrose, un des aides de camp du duc de Vendôme. Le 15 août 1695, au point du jour, une chaise de poste soigneusement close de tous côtés, couverte d'une épaisse croûte de boue, entra dans Versailles par l'avenue de Sceaux, où travaillaient déjà quelques terrassiers à moitié endormis sur leurs bêches. Ils se réveillèrent au cliquetis du fouet et au retentissement des roues. Ces manœuvres levèrent la tête et regardèrent passer la voiture, qui brûlait le pavé en roulant avec une étonnante rapidité. « Ce bel litre de postillon écraserait plus de 10 personnes s'il y avait du monde dans les rues à cette heure, » dit un des ouvriers que la roue avait frôlé. « C'est un courrier qui apporte au roi une nouvelle importante, » reprit un autre en suivant de l'œil la voiture qui était déjà loin. « Quelle nouvelle ?» répliqua un troisième. « Une victoire ? Une ville prise ? On n'entend parler que de la gloire des armes du roi. »«
Une ville prise ?» dit un autre. « Si c'était Barcelone. »«
Ah, parbleu, tu as deviné juste ?» « Cette chaise de poste vient d'Espagne, en droite ligne, pour annoncer que monsieur le duc de Vendôme est maître de Barcelone. »
La chaise de poste crottée fut contrainte de s'arrêter au milieu de la rue Satory, remplie de piqueurs et de meutes qui sortaient de l'hôtel de Courtenvaux et qui se rendaient en chasse dans les bois de Verrières. C'était un tumulte confus de sons de cors, de cris, d'aboiements, qui effarouchèrent les chevaux de la chaise et faillirent causer des accidents auquel le postillon obvia par son adresse plutôt que par sa prudence, car il s'efforçait d'avancer malgré les jurons des valets de la vénerie et l'encombrement de la voie publique.
« Maudit soit le conducteur de patache !» s'écrient les piqueurs en menaçant de leur fouet l'obstiné postillon.
« Le maraud s'en va écraser nos chiens !»« Hola, hé !»
répliqua le postillon en menaçant les piqueurs avec son fouet.
« Monseigneur le marquis de Barbezieux, vous t'en sera d'importance pour m'avoir retenu un moment, faquin. Sachez que j'ai ordre d'être, avant 5 heures, rendu à ma destination. »«
Que ne le dites-vous plus tôt, mon garçon ?» répondirent les piqueurs,
qui s'écartèrent avec empressement au nom du secrétaire d'État de la guerre.
« Mais d'où venez-vous donc, l'ami ? Apportez-vous des dépêches de Flandre ou d'Espagne ?
Vous êtes trop curieux, mes maîtres. Si je viens de Flandre, je ne viens pas d'Espagne. Et si je viens d'Espagne, je ne viens pas de Flandre. » « Voilà tout ce que vous pouvez savoir. Adieu. »«
Je gagerai que c'est un courrier d'Espagne, » dit un des veneurs.
« Il est grandement question de la prise de Barcelone, » reprit un autre.
C'est alors M. de Chemrose qui se trouve dans cette chaise. Il y a un mois qu'on l'attend de jour en jour.
« Tu Dieu, la belle affaire que la reddition de Barcelone !»«
Vive le duc de Vendôme !» répétèrent les piqueurs en s'accompagnant de leur corps.
« Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? » demandèrent des habitants qui se mirent aux fenêtres
pour savoir la cause de ce vacarme.
« Une bonne nouvelle, messieurs, » répondirent les piqueurs. « Voici qu'on vient d'annoncer la prise de Barcelone par monsieur le duc de Vendôme. »
Les échos de la ville ne tardèrent pas à éveiller ceux du château, où l'on racontait hautement, avant le lever du roi, que monsieur de Chemreau était arrivé à l'hôtel de l'extraordinaire des guerres pendant la nuit et avait remis des dépêches au ministre qui chassait en ce moment avec monseigneur et les princes dans les bois de Verrières, sans soupçonner ceux qui réclamaient sa présence à Versailles. Cependant, la chaise de poste, dont on avait tiré ses comptes en l'air, était arrivée devant la porte des communs de l'hôtel Barbezieux. Cette porte avait été ouverte aussitôt et refermée avec précaution dès que la voiture fut introduite dans la cour des cuisines, où elle resta exposée au regard des domestiques qui ne songèrent pas à la remarquer, quoique la nouvelle de la prise de Barcelone eût pénétré partout, excepté dans la chambre à coucher du roi qui dormait encore. Mademoiselle de Beausselet avait obtenu de la duchesse du Maine la permission de résider à Versailles pour y attendre Chemreau. Elle se leva ce matin-là, sous l'impression agréable d'un rêve dans lequel son fiancé s'était montré avec les insignes du maréchal de camp, grade que le roi avait promis au messager du duc de Vendôme en récompense de la nouvelle du succès de ses armes. Le premier mot que Louise entendit au sortir de son lit fut le nom de Barcelone. Elle y répondit en nommant Chemreau avec une vive explosion de joie, manifestée par des danses, des rires et des chants insensés. « Quoi ? Le méchant n'est pas encore venu ? » dit-elle à la femme de chambre qui la coiffait et l'habillait trop lentement à son gré. « Es-tu sûr qu'il ne soit pas venu ?» Louise de Beausselet fut forcée, malgré elle, de subir les lenteurs nécessaires de sa toilette, qu'elle aurait volontiers abrégée, en s'enveloppant d'une robe de chambre et en se couvrant la tête d'une simple cornette. Mais sa chambrière lui fit observer qu'elle ne pouvait se montrer en public sans que ses cheveux fussent frisés et entremêlés de perles et de rubans, sans que sa taille fût emprisonnée dans un corset étroit, sans que sa poitrine fût cachée sous une guimpe de dentelle, sans que ses pieds mignons fussent chaussés de souliers de satin. Louise eut peine à se rendre à ses représentations. Elle se laissa donc habiller. Elle livra sa chevelure aux mains de sa chambrière. Mais bientôt, elle perdit patience à rester assise et immobile sous le peigne de la coiffeuse. Et avant que les dernières boucles de ses cheveux fussent retombées en ondoyant autour de ses joues roses, elle jeta loin d'elle épingles, pommades et serviettes. Puis, bondissant comme une biche qui recouvre sa liberté, elle sortit de son appartement en appelant Chemreau, dont elle avait cru reconnaître la voix. « Monsieur de Chemreau n'est-il pas venu me demander ?» dit-elle au premier concierge du palais. « Il n'est venu personne et personne ne vous a demandé, » reprit le concierge. « Je sais en effet que monsieur de Chemreau est arrivé cette nuit et que Barcelone est prise, mais je ne sais rien de plus. » Mademoiselle de Beausselet se mit à courir dans la grande cour où les gens du château et les soldats de la garnison commençaient à se répandre pour recueillir et échanger des nouvelles sur la reddition de Barcelone. On ne prenait pas garde à elle, tant la préoccupation de tout ce monde était vivement accaparée par la victoire du duc de Vendôme. « Monsieur, auriez-vous la complaisance de m'apprendre où est maintenant monsieur de Chemreau ?» dit Louise à un vieux garde des portes qui affectait d'être instruit des circonstances de l'arrivée du courrier extraordinaire. « Mademoiselle, » répondit notre homme avec un ton d'assurance audacieuse, « monsieur de Chemreau est enfermé avec monsieur le marquis de Barbezieux à l'hôtel de la guerre. » Mademoiselle de Beausselet, qui avait hâte de rejoindre Chemreau, qu'elle accusait tout bas de peu d'empressement, ne demanda pas une chaise à porteur pour se rendre à l'hôtel du ministre de la guerre. Elle arriva en courant, monta l'escalier avec promptitude et s'efforça de passer outre, quoique l'huissier lui refusât le passage, suivant la consigne que M. de Barbezieux avait donnée avant de partir pour la chasse. « Madame, M. le marquis est enfermé dans son cabinet, » reprit l'huissier. « Il n'en sortira que ce soir. » « Bon. » Je ne me soucie pas de ministre, mais bien de Chemreau. Avertissez-le donc que je suis là. Madame, je ne puis sous aucun prétexte entrer au cabinet de monseigneur. Et vraiment, j'y entrerai bien, moi. C'est à contre-cœur que je vous retiens, madame, selon les commandements express de monseigneur. Mais je vous atteste que monsieur de Chemreau n'est point séant. Où peut-il donc être s'il n'est ici? Il est sans doute au lever du roi pour lui raconter les détails de son message. Quant à monseigneur le ministre, que m'importent les ministres du monde ? C'est Chemreau que je veux, c'est Chemreau que je demande, et je vais le chercher chez le roi. » Louise de Beausselet reprit sa course avec plus d'ardeur et retourna au château. Elle ne daignait pas remarquer la curiosité et la surprise que causait sa parure matinale,
ses cheveux à demi bouclés et ses souliers marquetés de boue. Bien plus, elle avait oublié ses gants, son mouchoir et son éventail. Elle se fit introduire néanmoins dans l'appartement de Madame de Maintenon. « Vous venez à propos, ma fille, » dit Madame de Maintenon, qui releva sa coiffe noire pour embrasser Louise. « Seyez-vous près de moi, que je vous lise un beau serment sur la grâce. Ah, belle marraine, il est question d'une grâce non moins divine, puisque j'ai besoin de la vôtre, » repartit Mademoiselle de Vosselet. « Conduisez-moi chez le roi. » « Que voulez-vous du roi, s'il vous plaît, ma fille ? Ne puis-je vous contenter, de même que sa majesté ? Est-ce une plainte à faire, une faveur à obtenir ?»« Ça, venez, belle marraine !» interrompit Louise de Vosselet en la caressant. « Je vous en conjure, ne me faites pas languir de la sorte. Il faut que je parle au roi, que je voie Chémereau. Tenez, si vous ne me donnez pas la main pour entrer, j'irai toute seule et j'entrerai, fût-ce par le trou de la serrure. Car Chémereau est maintenant dans la chambre du roi, et je n'ai pas vu Chémereau depuis son arrivée. » Madame de Maintenon fut forcée de céder, sans trop se rendre compte de l'intention de Mademoiselle de Vosselet, qui avait menacé de se tuer s'il n'arrivait pas jusqu'au roi. Elles passèrent donc ensemble par les petits appartements qui aboutissaient à la chambre à coucher de Louis XIV. Louis XIV en avait fini avec la médecine qu'il prenait tous les matins avant son déjeuner, mais la nouvelle de la reddition de Barcelone ne s'était pas arrêtée à la porte de son oratoire et de sa garde-robe. Il avait appris de la rumeur publique ce qu'il eût voulu tenir le premier de la bouche de l'invisible Chémereau. La joie de cette nouvelle fut tempérée chez lui par le dépit qu'il éprouva de ne connaître que de seconde main le triomphe de ses armes. Toutefois, selon son habitude, il s'empressait de jouir de la gloire du duc de Vendôme et de la faire rejaillir sur lui-même en recevant à son petit lever tous les courtisans que la grande nouvelle avait agglomérés dans les antichambres et les galeries. « Madame la marquise de Maintenon !» annonça l'huissier de la porte secrète par laquelle entra la favorite embéguinée dans ses coiffes. « Chémereau, où est-il ? Mon pauvre Chémereau !» s'écria Mademoiselle de Vosselet en s'élançant dans la chambre du roi et cherchant Chémereau parmi les courtisans. « Quelle est cette demoiselle ? » demanda le roi étonné. « Que nous veut-elle ? » « Sire, » reprit Madame de Maintenon en riant, « ne reconnaissez-vous pas Louise de Vosselet qui dansait la gavotte devant vous lorsqu'elle était petite ? Et que j'ai placée comme fille d'honneur dans la maison de Madame du Maine. Elle a quelque grâce à solliciter sans doute, et je vous prie de la lui accorder, car j'aime fort cet aimable enfant. « Sire, » dit Louise, qui, triste et confuse de ne pas rencontrer son fiancé, se tourna vers le fauteuil du roi et se mit à fondre en larmes. « Où est Chémereau ? » ?»« Je vous ferai la même question, mon enfant, car je n'ai pas encore vu Monsieur de Chémereau, et je suis très irrité contre lui, de ce qu'il n'est pas venu tout d'abord s'acquitter de sa commission près de moi. Il va venir, sire, et je dois réclamer pour lui la récompense que vous avez promise à l'officier qui apporterait la nouvelle de la prise de Barcelone. Veuillez nommer monsieur de Chémereau maréchal de camp. Le roi ne manque jamais à ses promesses, ma fille. Mais si je faisais maréchal de camp la personne qui m'annonça cette heureuse nouvelle, ce serait Fagon, mon premier médecin, à qui appartiendrait ce grade, puisqu'il m'a ce matin appris l'issue du siège de Barcelone en me tâtant le pouls. « Voilà de mauvais subterfuges, sire !» répliqua impétueusement Mademoiselle de Vosselet. « Je crains fort que vous ne pensiez par là frustrer Monsieur de Chémereau de ses droits et nommer quelque autre à sa place. »« Sire, sire, ne la contrariez pas, ne la faites pas pleurer !» disait Madame de Maintenon bas à l'oreille du roi. « Ce qu'elle demande est équitable. »« J'y consens, » reprit Louis XIV à demi-voix. « Mais quel grand amour a-t-elle pour ce Chémereau ? Est-il son frère ou son parent ? À coup sûr, elle l'aime passionnément. Sans doute, et on y peut trouver hardir, puisqu'ils se doivent bientôt épouser sous mes auspices. Mademoiselle de Vosselet, lui dit gracieusement le roi, vous êtes si belle qu'on serait cruel de vous refuser quoi que ce soit. Monsieur de Chémereau sera donc maréchal de camp, et nous vous marierons avec lui eu égard à l'intérêt que vous porte Madame la marquise. Je donne 10 000 écus pour ce mariage. Louise de Vosselet remercia expansivement le roi et Madame de Maintenon en sautant au cou de l'une et en baisant la main de l'autre. Puis elle prit congé fort délibérément de Louis XIV pour continuer la recherche de Chémereau que personne n'avait vu et dont l'arrivée n'était mise en doute par personne. Cependant, elle ne pouvait pas faire autrement que d'ajouter foi à l'arrivée nocturne de Chémereau, et ne sachant comment il avait disparu ainsi, elle tomba dans un accès de jalousie et de désespoir. Vers 5 heures, une chaise de poste traversa Versailles avec fracas et vint s'arrêter dans la cour du château. Un homme en descendit, l'air joyeux.
ce n'était pas Chémereau, mais Lapara, habile ingénieur, qui avait dirigé les opérations du siège de Barcelone.
« Ah, vous voilà, monsieur de Lapara, » lui dit mademoiselle de Vosselet, qui accourut au-devant de lui et l'empêcha de passer outre. « Qu'avez-vous fait de Chémereau ?»«
Chémereau ?» balbutia Lapara, embarrassé de répondre à cette brusque question.
« Ah, mon Dieu !»
s'écria tristement Louise, qui n'avait pu retenir Lapara, ni lui arracher une réponse plus explicite.
« Serait-il reparti pour la Catalogne, sans m'avoir dit adieu ?»
Lapara se renfermait dans un silence politique. Il se fit conduire chez le roi et annonça que Barcelone avait capitulé. Sa surprise fut grande quand il vit que la nouvelle était sue à Versailles depuis le matin, et plus grande encore quand on lui dit qu'elle avait été apportée par Chémereau lui-même, car il avait laissé Chémereau malade à Montpellier par suite d'une chute de cheval, Chémereau ayant voulu faire la route à Franquetrier et s'étant brisé les membres à la 10e poste. Ce fut un trait de lumière pour le roi et pour toute la cour. Chémereau n'était pas arrivé, mais la nouvelle était réellement arrivée longtemps avant Lapara. Barbezieux revint de la chasse avec les princes. Il avait été instruit de la prise de Barcelone, mais il ne s'était pas plus pressé de retourner à son ministère où l'on ignorait qu'il fût absent. Il trouva, à son retour, une invitation à souper chez le roi. Quoiqu'il eût lui-même invité pour le même soir les princes et d'autres convives que rapprochait l'amour de la bonne chère, il ne put se dispenser d'aller souper au château. Comme il se disposait à s'y rendre à contre-cœur, en regrettant le joyeux repas qu'il sacrifiait à un festin d'étiquette, son maître d'hôtel lui dit qu'un courrier avait apporté le matin un monstrueux esturgeon qui surpassait en grandeur tous ceux qu'on avait servis sur la table du roi depuis bien des années. Le marquis de Barbezieux ordonna que ce poisson gigantesque fût envoyé aux cuisines du château pour figurer dans le menu du souper royal. Lorsqu'on eut pris place autour de la table, en forme de fer à cheval, au milieu de laquelle siégeait le roi, tous les yeux se fixèrent sur l'esturgeon et Louis XIV lui-même partagea l'admiration générale. « Cet esturgeon a la taille d'un requin, » dit-il en fredonnant les paroles d'un air d'opéra que les musiciens exécutaient en ce moment. « Où a-t-on pêché ce miraculeux poisson ?»«
Sire, » répondit Barbezieux, « il est arrivé ce matin en chaise de poste. Je présume qu'il vient de la Méditerranée. » Mais je ne sais qui me l'adressa par courrier extraordinaire.
« C'est Chémereau !» s'écria mademoiselle de Vosselet en frappant des mains et s'agitant sur son tabouret.
« Voyez plutôt les armoiries de monsieur de Chémereau !»
Effectivement, l'esturgeon portait aux ouïes deux anneaux d'or avec un écusson d'armes que les cuisiniers avaient respecté dans la préparation de ce poisson qu'ils regardaient comme un présent de quelque prince étranger. Quand on ouvrit le ventre de l'esturgeon, on en tira un lagot de plomb sur lequel était gravée cette inscription « Barcelone a capitulé le 8 août. Monsieur de Chémereau, chargé de porter cette nouvelle au roi, est alité à Montpellier après une terrible chute qu'il a faite. Il se recommande toutefois à la magnanimité de sa majesté et aux bons offices de ses amis. »
« Je n'avais donc pas tort de soutenir que Chémereau avait le premier à porter la nouvelle de la prise de Barcelone, » s'écria mademoiselle de Vosselet.
« Une bonne nouvelle ne peut venir de trop de sources. » reprit Louis XIV. « J'ai nommé M. de Chémereau maréchal de camp et ne veux pas m'en dédire. Mais je nommerai de même M. de Lapara, qui n'est pas étranger à cette importante conquête, ce me semble. »
« Et l'esturgeon sera-t-il oublié ?»
répliqua malignement Barbezieux.
« Prouvons-lui en le mangeant qu'il est aussi le bienvenu. Nous ferons ensuite son oraison funèbre. »
Ainsi s'achève le courrier d'Espagne de Paul Lacroix.